chers auditeurs, la quatrième conférence de carême de cette année à Notre-Dame de Paris va nous être donnée par le chanoine Guillaume de Mantière, l'Eucharistie, mystère total.
Excellences, mes seigneurs, mes pères, frères et sœurs et chers amis, ils le reconnurent à la fraction du pain et il disparut devant leurs yeux. Voir et ne pas voir, telle est la question, tel est le mystère plutôt. La fraction du pain est l'expression chez les apôtres du mystère eucharistique. On ne peut le saisir, même s'il se livre à nous. On ne cesse de le chercher et l'ayant trouvé, de le chercher encore. Il est grand, le mystère de la foi. Chaque dimanche, chaque jour, nous communions au Christ si caché sous les apparences du pain. Lui, le plus beau des enfants des hommes, comme le dit le psaume, s'est fait sans éclat, ni beauté, sans apparence pour nous séduire, comme le dit Isaïe dans les chants du serviteur. Le Christ dans l'Eucharistie se dévoile et se cache. « Regardez l'humilité de Dieu, disait saint François d'Assise, et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Il est le pain de vie, il a pourtant passé la mort. La vie véritable n'est pas celle qui veut à tout prix échapper à la mort, mais celle qui triomphe de la mort. »
Oui, Monseigneur, l'humilité de Dieu et sa bonté de Père. Car ce matin, c'est l'inégalable parabole du Fils prodigue qui a été proclamée dans nos églises, une vraie icône de la miséricorde. Comment ne pas avoir ici, à l'imagination, le célèbre tableau de Rembrandt ? On voit le Père aux yeux mi-clos, le Père aux yeux délavés par les pleurs, le Père aux yeux vides, le Père aux yeux creusés par l'attente de son Fils perdu. Il s'est usé les yeux à son métier de Père, commente magnifiquement Paul Baudiquet. Il a scruté la nuit, guettant d'un même regard l'improbable retour. Frères et sœurs, revenons. Revenons à Dieu de cœur et d'âme en ce temps de carême. Allons vers la maison du Père. Allons, enfants de la patrie. Pourquoi tarder chez les cochons, puisque Dieu nous fit sans groin ? Arraché au pays de la mort, le Fils prodigue revient vers le Père. Oh, les sentiments que lui prête la parabole ne sont guère glorieux. Ce n'est pas par élan filial qu'il revient vers le Père. Il n'éprouve qu'une légère attrition et non point cette contrition parfaite qui est la détestation de son péché pour l'amour du Père offensé. Qu'escompte-t-il en fait ? Se remplir le ventre d'autre chose que de caroube. Un remords simplement gastrique le tenaille, la faim, le tiraille. Son retour n'est pas repentance, mais ravitaillement. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, dit-il. Ce qu'il veut, du pain. C'est tout. Mais c'est tout. Car pour le lecteur chrétien, ce pain tant désiré, même pour de si bas motifs, ce pain que l'on reçoit généreusement dans la maison du Père, c'est déjà l'Eucharistie, mystère total. C'est le banquet succulent de l'amour paternel. C'est le festin de l'Alliance, l'allégresse de la Pâque. Mon fils était mort et il est revenu à la vie. Ne fallait-il pas fêter et festoyer ? voici l'impératif de fête. Il faut festoyer, fêter le retour d'un enfant, comme dit la chanson. L'insistance, c'est trop clair, est bien davantage sur la joie que sur le pardon. Vous tous qui irez ces jours-ci vous confesser avant Pâques, vous n'irez pas parce que ça se fait, parce que c'est nécessaire, parce que c'est de règles et de commandements. Vous irez pour réjouir le cœur du Père, pour faire frémir de bonheur le ciel, car il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Il est frappant que le motif de l'allégresse paternelle soit vraiment pascal. Mon fils était mort et il revit. C'est une vraie résurrection célébrée par un festin. Une joie pascale autour d'un repas, c'est un thème que nous retrouvons quelques chapitres plus loin chez saint Luc à propos des disciples d'Emmaüs. Nous les avions laissés dimanche dernier, les yeux encore aveuglés, incapables de reconnaître le Seigneur, mais le cœur déjà brûlant à la faveur de la catéchèse que, chemin faisant, le Christ leur avait dispensée. Le village et la nuit approchant, Jésus, dit l'Évangile, fit semblant d'aller plus loin. Alors les deux compagnons d'Emmaüs invitent l'étranger. « Reste avec nous, car la nuit vient et déjà le jour décline. » Sourdement attisés sous les cendres du doute, impuissants à comprendre ce que le Verbe enseigne, ils ne supportent pas qu'ils s'esquivent et qu'ils feignent de poursuivre pour d'autres les leçons de la route. Mais pour donner refuge en leurs cœurs assombris aux lueurs du dehors qui peu à peu s'estompent, il suffit à leur hôte qu'ils bénissent et qu'ils rompent le pain de l'humble auberge sous leurs yeux éblouis. Reste avec nous, Seigneur, quand le jour baisse. Reste avec nous quand la nuit vient. Quand le jour est enfui et nous délaisse, reste avec nous pour nous rompre le pain. Reste avec nous, lumière sans déclin. Les compagnons d'Emmaüs accueillent celui qu'ils n'avaient pas encore reconnu, ce voyageur qui les a rejoints sur la route, cet exégète itinérant qui leur a ouvert les Écritures. De même que grâce à son hospitalité, aux chaînes de membrées, Abraham hébergea à son insu des anges. Les pèlerins d'Emmaüs, en recevant celui qu'ils prenaient pour un étranger, hébergèrent à leur insu le Seigneur des anges. Ce n'est donc pas en entendant la parole de Dieu qu'ils ont été éclairés, mais en la mettant en pratique. Imite les disciples d'Emmaüs et tu reconnaîtras le Seigneur, exhorte saint Augustin dans un sermon fameux. Lorsqu'ils sont arrivés au terme de leur voyage, ils lui ont dit « Reste avec nous, car le jour tombe. Retiens l'étranger si tu veux reconnaître ton Sauveur. » L'hospitalité leur a rendu ce que le doute leur avait pris. Au cœur de Paris, la cathédrale Notre-Dame jouxte l'Hôtel-Dieu. La proximité géographique de l'église et de l'hôpital n'est pas fortuite. Elle correspond à ce qu'il y a de plus profondément enraciné dans la spiritualité chrétienne. L'autel et l'autel vont de pair, pourrait-on dire. Ce n'est pas là seulement un jeu de mots facile, c'est une exigence de la foi. Nous ne pouvons être les hôtes du Seigneur dans l'église si nous nous sommes en même temps les hôtes des pauvres dans nos maisons. La double signification du mot « hôte » en français, à la fois celui qui invite et celui qui est invité, souligne encore ce va-et-vient nécessaire. Il y a un lien étroit entre l'Eucharistie, où nous sommes les bienheureux invités au repas du Seigneur, et l'accueil de l'étranger. Un lien entre Marthe et Marie. Les deux sœurs de Lazare figurent cette complémentarité ici-bas du service et de l'adoration. Marthe nourrit le Seigneur, Marie se nourrit du Seigneur. Les pères de l'Église ne cessent de louer la philoxénie, l'amour et l'accueil de l'étranger. Par son hospitalité, Rahab, la prostituée de Jéricho, n'obtint-elle pas le salut ? Quant à Lot, neveu d'Abraham, n'est-ce pas pour avoir hébergé des inconnus que seul il fut épargné dans Sodome ? Écoutez cela, s'écrie Origène. Dans la demeure hospitalière de Lot, des anges sont entrés. Mais c'est le feu qui est entré dans les demeures inhospitalières. L'évêque Myriel, qui accueille avec une telle charité Jean Valjean dans Les Misérables, fut inspiré, on le sait, à Victor Hugo, par le cas bien réel de l'évêque de Digne, Monseigneur de Miolis. Car si l'hospitalité généreuse est un devoir de tout chrétien, c'est surtout à l'évêque, Monseigneur, qu'elle s'impose, au dire même de saint Paul. Heureuse hospitalité que celle qui est offerte au Seigneur en la personne du pauvre. Si tu exclus l'étranger de ta maison, tu exclus le Christ de ton cœur. Et si tu exclus le Christ de ton cœur, qui te recevra dans les tentes éternelles ? Ne te dis pas de manière présomptueuse, qu'ai-je à craindre ? Dieu est bon. Je n'ai pas de laisser de place aux pauvres chez moi, mais c'est parce que ma maison est petite. Mais le ciel, lui, est immense, et il y a de nombreuses demeures dans la maison du Père. J'y serai accueilli, assurément. Ah, qu'il est déplorable de prendre ainsi à faux la parole du Seigneur. Il y a beaucoup de demeures dans la maison du Père. Sous cette forme, le verset de l'Évangile est utilisé à tort et à travers. On en fait le justificatif de l'oisiveté et la devise du relativisme. C'est très pratique pour clore un débat qui commence à s'échauffer. On trouve toujours une bonne âme drapée dans la sainte tolérance pour clore la discussion en énonçant doctement « De toute façon, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père ». Et voilà, le tour est joué. Sous ce lieu commun de l'indifférentisme est étouffée toute velléité de chercher le vrai et de faire le bien. Que vous pensiez blanc ou que vous pensiez noir, que vous ayez mis votre foi en Jésus ou que vous ayez préféré essayer Bouddha, que vous ayez gardé les commandements ou que vous ayez passé votre vie à les enfreindre, cela n'a aucune importance. Quoi qu'il en soit, un petit loft vous attend au paradis où vous pourrez vous complaire avec des collègues qui partagent vos opinions. Ce qu'on oublie quand on pense ainsi, c'est que si le ciel est vaste et multiple, le chemin qui y conduit, lui, est unique. Ce chemin, c'est Jésus de Nazareth, qui est la voie, la vérité, la vie. Non pas une voie dans un dédale d'itinéraires valables, une vérité parmi tant d'autres, une vie en dehors de laquelle vivre serait quand même envisageable, mais bien la voie, la vérité et la vie. On dit quelquefois, dans un raccourci dangereux et périlleux, qu'au ciel, les pécheurs entreront. Cela n'est pas tout à fait exact. Ceux qui seront accueillis dans la maison du Père, ce sont des pécheurs repentis et pardonnés. Au ciel, il n'y a que des saints. On n'entre pas au festin sans avoir le vêtement de noces. On n'entre pas par la cheminée à l'auberge d'Emmaüs. On ne prend part au repas du Seigneur que pour autant qu'on a accueilli cet étranger que la nuit fragilise. N'est-ce pas précisément ce que firent au soir tombant les compagnons d'Emmaüs ?
ils retinrent l'inconnu dans la nuit. Et c'est ainsi que leurs yeux s'ouvrirent à la lumière et qu'au cours du repas, ils reconnurent le Seigneur. Et il advint, comme il était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Tous les lecteurs de l'Évangile ont pu constater l'importance des repas. Jésus ne passait-il pas aux yeux de ses détracteurs pour un ivrogne et un glouton? Le maître ne dédaignait pas les invitations à dîner. Il se rend sans embâche chez les pharisiens aussi bien que chez les pécheurs. Il s'invite même chez les publicains. Il mange, il boit, il passe du temps à table, comme un bon Français qu'il n'est pourtant pas, jusqu'à ce dîner qu'il a tant désiré, d'un grand désir, prendre avec ses disciples la veille de sa mort. Voilà bien l'étonnant encore. La dernière volonté de Jésus, à quelques heures de son épouvantable crucifixion, son testament en quelque sorte, c'est ce repas, cette sainte scène qu'il partage avec les siens. Tous ses disciples, jusqu'à nos jours, savent bien qu'il n'y a pas moyen de lui être fidèle sans entrer dans ce grand désir qui est le sien. Venir à sa table, recevoir son pain, boire à sa coupe, vivre le repas du Seigneur. Vous me direz, oui, mais cela, c'était avant que le Christ mourût. Quel besoin aurait-il de se nourrir maintenant qu'il est ressuscité, entré dans la gloire du ciel? Quel est le sens de ces repas d'après Pâques que Jésus donne comme autant d'attestations de sa résurrection? Au point que Pierre peut présenter les témoins du Christ vivant comme ceux qui ont mangé et bu avec lui après que Dieu l'a relevé d'entre les morts. Souvenons-nous de ces récits bouleversants où le ressuscité partage avec les siens le poisson grillé au bord du lac. Saint Jean, en son dernier chapitre, nous rapporte en effet qu'après avoir vu le ressuscité au jour de Pâques, sept disciples du Seigneur, décidément peu enclins à croire, avaient tout bonnement repris, 8 jours plus tard, le cours de leur ancienne vie. Ils étaient revenus à leur métier de pêcheurs. Ils sortirent, raconte le 4e évangile, montèrent dans le bateau, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. C'est quand même un comble. Mais que font-ils? Que font-ils là? Que diable peuvent faire ces tristes apôtres sur le lac, triturant des filets vides au bout d'une nuit infructueuse, gisant dans leur incompétence? Auraient-ils oublié, en l'espace d'une semaine, qu'ils sont les glorieux témoins du ressuscité? Voilà qui est bien étrange. Songez plutôt, ils ont vu déjà par 2 fois le Seigneur ressuscité. Et où vont-ils? À la pêche. Jésus leur a dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés, ils leur seront remis. » Mais eux s'en retournent à leur filet et à leur barque. Auprès de qui entendent-ils témoigner ces pêcheurs du dimanche? Auprès de poissons éberlués et dociles? Est-ce pour le bonheur des carpes et des goujons qu'ils ont été envoyés? Sont-ce des péchés de mollusques que le Seigneur leur a demandé de remettre et de pardonner? Chrétiens, n'en doutez pas. C'est pour notre instruction que les 7 disciples, figurant l'Église des nations, sont retournés à leur activité profane. Ils nous enseignent ainsi que la rencontre du ressuscité peut surgir au cœur de nos routines et jusqu'au sein de nos échecs. Le Christ vivant ne vient pas seulement auréoler de sa présence des exploits héroïques ou des expériences exceptionnelles. Non, il est présent dans les situations les plus banales de nos vies, dans le piètre, le médiocre et le calamiteux. Comme il est bon de découvrir dans l'Évangile ce tissage obstiné du sublime et de l'ordinaire, l'aiguille experte de la grâce brodant le canevas banal de nos piteux destins. Il n'est besoin de rien d'autre que d'un cri, d'un plongeon et d'un repas pour percevoir la vive présence du ressuscité dans notre quotidien. Un cri, un plongeon, un repas. Ou pour le dire en termes plus théologiques, le kérigme, le baptême, l'Eucharistie. Le cri, tout d'abord, c'est lui, c'est le Seigneur. Ô beau kérigme primordial ! Quand les filets se remplissent à la faveur d'une pêche miraculeuse, Saint Jean, plus prompt à croire, s'écrie « C'est lui, c'est le Seigneur !» Quelle force, quelle fougue, que de joie et d'empressement dans ce cri de la foi matinale « C'est le Seigneur !» Celui-là même qui était mort a surgi des enfers comme cette pêche frétillante a jailli mystérieusement des profondeurs stériles du lac. Cette vie réveillée dans les abîmes dit la puissance de la résurrection. Pierre lui-même n'en croit pas ses yeux. Lui, l'homme du lac, l'homme de la pêche, l'homme du métier et de la partie. Jésus vivant l'a rejoint dans son échec professionnel, comme il a rejoint les pèlerins d'Emmaüs sur leur route accablée. Aussi ne s'agit-il pas de fuir nos occupations familières, de mépriser notre condition modeste, mais de percevoir en leur sein la tendre voix de l'homme sur la berge qui vous aile et quémande. « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ?» Quelle divine surprise ! Un héros jaillit de la mort. Normalement, ça tranche, ça ordonne, ça détermine. Ça règne, enfin, quoi ? Ça vous toise de toute sa gloire immense ? Eh bien non. Jésus ne commande pas, il quémande. Il ne domine pas, il sollicite. Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? Reconnaissez la voix du Seigneur à la requête humble du pauvre et criez avec l'Église apostolique, « C'est lui, c'est le Seigneur !» C'est lui, c'est le Seigneur. N'est-ce pas notre cri à chaque messe, quand l'hostie si dépourvue d'apparence qui puisse séduire est élevée au-dessus de nos têtes ? La même foi qui fait reconnaître Jésus présent dans cette ombre sur la rive le découvre aussi dans ce petit peu de pain sur l'autel et suscite le même cri éberlué. C'est le Seigneur. Comme ces homélies du curé d'Ars, dont on dit qu'elles pouvaient consister tout entière dans la répétition heureuse et effarée de ces simples mots « Il est là, il est là, il est là » dans le sacrement de son amour. C'est lui, c'est le Seigneur. Mais la foi ne se réduit pas à un cri. Ce n'est pas en parole seulement qu'il nous faut croire et aimer, mais en acte. Et en vérité, c'est pourquoi un plongeon est nécessaire. Rien ne pourra remplacer ce baptême, cette vigueur de l'engagement dont fait montre l'admirable Pierre. Pour être chrétien, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur !» Il faut palper de cette eau froide, plonger dans l'élément liquide, se jeter à l'eau, se mouiller dans cette affaire. Attesté par sa vie et ses gestes, cet appel en nous, si fortement qui nous presse, témoigné par son élan, que l'autre rive n'est pas un mirage trompeur. Ce ne sont pas des idées simplement, mais tous nos sens corporels qui nous invitent à la foi. Notre oui a entendu l'appel. Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? Nos yeux ont perçu la silhouette de l'homme riverain. Notre corps a touché l'eau froide du lac. Nos narines ont humé l'odeur de la friture sur la braise. Nos papilles ont goûté du poisson grillé. Heureux disciples qui entendent, voient, touchent, goûtent, reniflent, pressentent, engagent tout leur être dans l'aventure de la foi. Jésus ne ressuscite pas en chambre stérile. Il n'attend pas des experts aseptisés, mais des apôtres qui l'annoncent par tous les pores de leur existence. Tenez, l'an dernier j'étais à Lourdes et je me suis glissé dans cette foule innombrable et cosmopolite qui va aux piscines. Dans les longues files d'attente, il y avait des hommes, des femmes, de tous les peuples, de toutes les langues, des bien portants, des malades, des infirmes, des vieux, des jeunes, des laïcs, des prêtres, tous plongés dans la même eau. Dieu, qu'elle était froide, cette eau pyrénéenne. Dans le même bain, tous pécheurs, tous frères, ne formant par le don du baptême qu'un seul corps en Jésus-Christ. Qu'il était beau, ce petit peuple brassé des candidats baigneurs. Ici, pas de fanfaron, pas de matamor. Nous étions l'Église, tout simplement. Et pour témoigner de Jésus ressuscité, il n'était pas besoin d'autre chose que de s'insérer dans ce peuple compact et communiant au son des Ave Maria. L'Église est en effet ce grand corps palpable qui atteste le Seigneur vivant en montrant ses plaies. Nos faiblesses, nos pauvretés, nos misères, jusqu'à nos péchés même, nous ne les masquons pas, nous les exhibons au regard de tous, en esprit d'humilité et de repentance, car ils attestent ainsi confessés la puissance de la résurrection. C'est dans ta faiblesse que je déploie ma force, dit le Seigneur. Nul ne témoigne mieux du Christ vainqueur que celui qui va humblement s'agenouiller au confessionnal pour recevoir le pardon de ses péchés. Je me souviens de ce jeune qui, à la faveur d'une retraite, avait fait un spectaculaire retour vers le Seigneur. Il voulait désormais, de toute sa ferveur juvénile, servir l'Église. « Tu veux être utile à l'Église ?» lui avait dit son aumônier, qui n'était pourtant pas un rabat-joie. « Très bien, commence par aller te confesser. » Or, la même braise qui nous purifie de nos péchés cuit aussi pour nous le repas de la miséricorde. Car c'est un repas, nul ne l'ignore, qui est le sceau de toutes les apparitions pascales. Pour aller jusqu'au bout de l'élan de la foi, il nous faut donc répondre à l'invitation du ressuscité. Venez déjeuner. Venez déjeuner. Imagine-t-on propos plus décalé ? Que signifie cette parole dérisoire ? Pas du tout à la hauteur de la situation. Car enfin, d'un ressuscité, on pourrait attendre quelques déclarations ronflantes, un mot historique, une parole d'outre-tombe. Et voici à la place ces mots d'une renversante trivialité. Venez déjeuner. C'est le mot de la mère de famille qui crie à table et dont le cri est suivi souvent de si peu d'effet. Comme à la fin du générique de la série télévisée « Fais pas ci, fais pas ça ». Hélas, le ressuscité lui-même s'époumonne « À table, venez déjeuner !» Et qu'ils sont peu nombreux, les enfants de la famille chrétienne, à répondre à cette invitation eucharistique. Quand bien même la Vierge Marie nous conseille « Faites tout ce qu'il vous dira !» Qu'ils sont rares, ceux qui font en mémoire de lui ce que le Seigneur demande. Venez déjeuner. Cette parole, jamais homme ne l'eût imaginée. Jamais il n'eût mis dans la bouche d'un héros fictif revenant de la mort des propos si futiles, si dénués d'artifice et d'apparence. L'homme, admettons-le, eût pu tout inventer. Le tombeau vide, la victoire sur la mort, la gloire du ressuscité. Mais ce qui dépasse toute conception humaine, c'est ce mot sans phare et sans apprêt « Venez déjeuner ». Des charlatans habiles auraient pu tramer un récit de lumière et d'apothéose, une histoire séduisante et trompeuse, un ressuscité dans une mandorle de gloire. Jamais ils n'auraient pu concevoir cette odeur de poisson grillé, irréfutable témoignage olfactif, ce pain simplement rompu et partagé, ce repas ordinaire qui nous fait toucher déjà à l'autre rive. Seul Dieu pouvait inventer l'Eucharistie. J'ai intitulé cette conférence « L'Eucharistie, mystère total ». Non que l'on ne comprenne rien à l'Eucharistie, mais plutôt parce que l'Eucharistie comprend tout. Ce sacrement inclut toutes les dimensions de l'existence. Il est, comme l'enseigne le Concile Vatican II, la source et le sommet de toute la vie chrétienne. Notons bien, pas simplement de la doctrine, de la théologie ou de la piété chrétienne, mais de toute la vie chrétienne. Il n'y a rien d'authentiquement chrétien qui ne prenne sa source dans l'Eucharistie et ne converge vers elle. Ou pour le dire d'une manière plus ramassée et plus percutante, tout va à la messe. Interrogez les gens autour de vous. Demandez-leur ce qu'est un chrétien. Ils vous répondront en gros « Oh, c'est quelqu'un qui va à la messe ». Ce n'est pas si faux. Car même s'il y a belle lurette que les chrétiens, hélas, dans leur grande majorité, ne se déplacent plus guère pour la messe le dimanche, il reste vrai que la vie chrétienne tout entière est polarisée par l'Eucharistie. Ce mot « Eucharistie » par lequel on désigne le sacrement de la charité est en fait un mot tout simple du vocabulaire grec. Il veut dire « merci ». Merci, mot basique, un des tout premiers que l'on apprend aux enfants. Nous célébrons l'Eucharistie pour dire « merci ». Pour rendre grâce. Déjà au IIIe siècle, lorsque l'on demandait à Origène « Pourquoi donc les chrétiens vont-ils à la messe ?» il répondait « Parce qu'ils ne sont pas ingrats. » 9 lépreux sur 10, guéris par le Seigneur, omirent autrefois de venir remercier. Un seul, un étranger, un samaritain, vint rendre grâce pour le bienfait de sa guérison. 1 sur 10, la proportion est-elle seulement atteinte de nos jours en France? Y a-t-il au moins 10% des baptisés qui viennent dire merci au Seigneur le dimanche? Aussi, à vous chrétiens qui m'entendez ici à Notre-Dame, ou que par la magie des ondes de France Culture, de KTO, de RCF ou de Radio Notre-Dame, ma voix rejoint ce soir. Je suis heureux de répercuter ce précepte du Seigneur, le plus simple, mais sans doute le plus décisif de tous. Venez déjeuner. Si vous avez perdu depuis longtemps le chemin de l'Église et de la messe, venez déjeuner. Le ressuscité vous le demande. N'ayez crainte qu'il vous juge ou qu'il condamne vos infidélités. Venez déjeuner. Si, comme Pierre, vous aimez le Seigneur, venez déjeuner. Cette braise où Pierre s'est échauffé dans la cour de son triple reniement, la voici à nouveau présente au bord du lac pour purifier ses lèvres et son cœur dans une triple confession. 3 fois la crainte avait renié, 3 fois l'amour a confessé. Simon, m'aimes-tu plus que ceci ? Tu sais bien, Seigneur, que je t'aime. Ô braise moins rouge que les joues confuses du renégat, ô braise moins attisée par le vent du lac que ce cœur par le souffle de la miséricorde, ô braise moins ardente que l'apôtre à présent enflammé qui s'élance et confesse, ô tache sur la rive simplement qui rougeoie, phare bienfaisant pour notre navigation. frères de partout, qui ramant dans ce monde, gardez vif au cœur néanmoins l'amour de Jésus. Nous vous en supplions au nom du ressuscité, venez déjeuner. Entrez dans l'auberge d'Emmaüs. Reconnaissez dans le pain rompu de l'Eucharistie la présence du Seigneur. Bien sûr, le Seigneur est présent dans sa parole, méditée sur le chemin. Bien sûr, il est présent dans le pauvre qu'on accueille. On parle souvent des 5 P de la présence du Seigneur. C'est un moyen mnémotechnique et catéchétique bien commode. Le Christ est présent dans le pauvre, dans le peuple, dans le prêtre, dans la parole et dans le pain. Toutes ces présences sont réelles, bien sûr, car qu'est-ce qu'une présence irréelle, sinon une absence ? Cependant, la présence éminente du Seigneur, vraie et substantielle, est dans le sacrement de son corps et de son sang. C'est dans l'Eucharistie que sa présence se fait, si je puis dire, éblouissante. Les pèlerins d'Emmaüs en firent la vive expérience. Au cours du repas, ils furent irradiés à la clarté du pain. Quand on veut faire la vérité, il faut toujours se mettre à table, comme on dit dans un français légèrement argotique. Se mettre à table signifie faire la vérité, laisser tomber les œillères, les écailles et les masques, être vrai enfin et ébloui. Et il advint, comme Jésus était à table avec eux, qu'il prit le pain, dit la bénédiction, puis le rompit et le leur donna. Leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. L'emploi des 4 verbes, prendre, bénir, rompre, donner, dans le récit d'Emmaüs, ne permet aucun doute. Ce sont les mêmes verbes que ceux utilisés lors de la multiplication des pains ou de la Sainte Cène. C'est donc bien de l'Eucharistie qu'il s'agit. Manifestement, Jésus accomplit un rite, des gestes semblables, souvent répétés de manière codifiée et signifiante pour ceux qui les perçoivent. Il est bon de rappeler que toute vie humaine comporte nécessairement des rites, comme toute pensée humaine comprend nécessairement des dogmes. Je suis persuadé, comme Chesterton, que les êtres humains sont des animaux qui reçoivent, instituent et acceptent des dogmes et des rites. Que c'est là un critère tout premier d'hominisation. Comme disait l'humoriste et penseur anglais, les arbres n'ont pas de dogme. Les navets sont extraordinairement larges d'esprit. Il n'existe que 2 sortes de gens. Ceux qui acceptent les dogmes et les rites et en ont conscience, et ceux qui acceptent les dogmes et les rites et qui n'en ont pas conscience. Hélas, qu'ils sont nombreux aujourd'hui, ceux qui, récusant tout dogme, tout rite, toute église, se font en fait des dogmes de leurs idées, des rites de leurs habitudes, des églises de leur parti. Que l'on songe, par exemple, à l'aspect hautement ritualisé de nos repas. Un repas, c'est toujours pareil. Il y a des assiettes, des verres, des couteaux, qui ne sont pas mis n'importe comment. Certes, ces codifications sont situées dans notre contexte culturel, mais toute civilisation a ses propres codes pour le rituel du repas. Les sciences humaines redécouvrent aujourd'hui l'importance du rite. Avec sa sagesse naïve, le petit prince de Saint-Exupéry l'exprimait admirablement. Il faut des rites. C'est une chose trop oubliée. Il faut des rites. Jésus se laisse connaître au rite de la fraction du pain. Ce geste de rompre le pain est tellement typique de Jésus que les disciples ne peuvent s'y tromper. C'est bien le Seigneur. Pourquoi Jésus rompt-il le pain ? pas simplement pour en donner un morceau à chacun, mais aussi parce que ce geste a une portée sacrificielle. Il ne signifie pas tant partage qu'immolation. Jésus est en lui-même le pain rompu. Il a été brisé, broyé à cause de nos perversités. L'Eucharistie est un repas partagé, mais ce repas, c'est le sacrifice du Seigneur. Depuis que Jésus naquit à Bethléem, la maison du pain, dans une mangeoire, il n'a de cesse de se faire notre nourriture. Il ne veut pas rester avec les siens dans un rapport distant et contractuel. Il vient en nous pour que nous soyons en lui un même corps. J'ai connu Gérald, un jeune handicapé mental. Il avait fait sa première communion avec beaucoup de joie. Chaque dimanche, il venait à la messe, mais sa maman avait remarqué que certains dimanches, il refusait de communier. Elle se demandait pourquoi. Puis, à force d'observation, elle remarqua que lorsque Gérald, entrant dans l'église, était bien accueilli, qu'on lui laissait une place, qu'on lui souriait, il allait communier. Mais les dimanches où il sentait que l'on se détournait de lui, où le vide se faisait subitement autour de sa place parce que les gens avaient peur d'affronter son visage de trisomique, alors ces dimanches-là, il n'allait pas communier. Avec son intelligence propre, avec son intelligence cordiale, de toute son âme, Gérald avait compris ce qu'était la communion. Nous communions pour ne faire plus qu'un avec le Seigneur et entre nous. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ, explique saint Paul, parce qu'il n'y a qu'un pain. À plusieurs, nous ne sommes qu'un corps, car nous participons à ce pain unique. Vous, les catéchumènes, notre prière se fait plus vive pour vous, tandis qu'approche la nuit bénie de votre renaissance. Par l'eau du baptême, vous allez devenir une bonne pâte, cuite au feu de la confirmation et offerte à Dieu comme un beau pain doré dans l'Eucharistie. La messe est le gage de cette gloire éternelle où Jésus est entré et vers laquelle, nous le verrons dimanche prochain, il nous entraîne avec lui.
Ainsi s'achève cette quatrième conférence de carême, l'Eucharistie mystère total. Dimanche prochain, nous entendrons à nouveau le Père de Mantières, le Seigneur, gloire en fuite. Et pour la prise de son, nous remercions Fabien Gosset et Michel Gassic.